Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes en direct le mercredi 16 octobre de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission en replay demain jeudi 17 octobre de 9h à 10h ainsi que sur Spotify lorsque vous cherchez La Forêt des Possibles. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons des liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt, c'est le cas de le dire ce soir, qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités, témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde qui vient. Je m'appelle Marin Moffret et je suis accompagné ce soir par Jeanne Ray. Bonsoir Jeanne.
Salut Marin, bonjour à tous et
à toutes. Merci. Par Félix Tedelin qui est en régie. Bonsoir Félix.
Bonsoir tout le monde.
Par Thibaut Charnin qui est notre chroniqueur de la soirée.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Thibaut. Et notre invitée, Audrey Devedeux. Bonsoir Audrey.
Hey, bonsoir.
Tu viens nous présenter un projet de micro-forêt à la friche de la Belle de Mai qui s'appelle le projet Forever. C'est ça?
Oui.
Et donc, comme vous le savez maintenant, l'idée de cette émission, c'est de remonter du moi au nous et du nous au tout, le cheminement d'un engagement. Et donc, tu vas nous présenter, Audrey, là d'où tu viens, quelles ont été tes questions, quel a été ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir porter ce projet de forêt urbaine à Marseille, ici, à la friche de la Belle de Mai, plus spécifiquement. Et ensuite, nous questionnerons comment est-ce que ce projet, à son échelle, transforme la société. Et donc, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est tout simplement de pouvoir te présenter et ton parcours et les questions qui t'ont traversé l'esprit.
Bah déjà, merci. Je suis super contente d'être là et j'ai adoré ta présentation. Ça donne envie. C'est trop beau. Alors moi, qui suis-je? Je me le demande, mais je vais vous dire ce que je pense d'être de moi-même. moi, en gros, je suis un peu spécialiste de tout ce qui est gestion de projet. Donc j'ai longtemps travaillé dans le secteur culturel, festival, musée, cinéma, art contemporain, etc. Et j'ai migré ensuite dans le secteur du coworking, à gérer un lieu de coworking. Vous me direz, mais quel est le rapport avec la forêt? En parallèle, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup d'associatifs et j'ai toujours eu la fibre, j'aime bien ce mot de conscience. Donc j'ai toujours eu cette fibre de conscience, c'est-à-dire dans quel monde on est, qui on est par rapport à la nature, sachant qu'on est aussi la nature. Donc j'ai toujours ce questionnement de l'être humain sur la planète Terre, en gros. Et donc avec plein de questions qui me venaient tout le temps sur mon environnement, sur pourquoi c'est comme ça, pourquoi on construit ça de cette telle manière, pourquoi là c'est construit et là il y a le végétal, pourquoi il y a des routes, pourquoi c'est comme ça. Et donc à Marseille, moi ce qui me frappe, c'est vraiment le... Bon, j'ai eu la chance de faire quelques voyages sur ma route de vie. Et à chaque fois, j'étais hyper attentive aux quelles places on laisse au végétal et surtout au végétal sauvage en ville. Et même pas forcément en ville, aussi dans les campagnes, quelles places on laisse à la nature sauvage. Eh bien, pas énormément, en règle générale. Je parle de sauvage, c'est-à-dire qu'on est intouchable, qu'on n'y touche pas. Et donc, à Marseille, c'est vrai qu'on a la mer, on a les jolies montagnes, les calanques, le massif de l'Étoile, etc. Mais en cœur de vie, dans le quotidien des gens, moi je suis intéressée par qu'est-ce qu'on vit au quotidien, il y avait ce manque, que j'en parlais avec mes amis, quand j'en parle dans le professionnel, quand Voilà, il y a toujours ça qui revient, c'est ça manque de vert, ça manque donc de bien-être, ça manque de chants d'oiseaux, ça manque de vie naturelle et surtout, ça manque de fraîcheur.
Est-ce que ça manque parce que tu as connu ça quand tu étais petite et qu'il y a ce vide, ou est-ce que ça manque parce que justement depuis toujours tu as vécu en ville et que c'est quelque chose qui a été absent et dont tu ressens le besoin ?
Bonne question ! Oui, alors en fait j'ai eu la chance, moi j'ai grandi à Mandelieu-la-Napoule et c'est vrai que là-bas c'est une sorte de petit village, quoi. Enfin c'est une ville-village et il y a la nature qui est autour et moi mes week-ends avec mes parents c'était balade au Mont-Saint-Père. Donc Mont-Saint-Père tous les week-ends, toute ma vie quand j'étais petite. Et tous les étés, c'était, on me mettait en camp de vacances, entre guillemets, chez les grands-parents, en rien à voir, mais du coup en Haute-Saône, en Franche-Comté. Donc j'étais avec les vaches, les moutons, la terre, la boue, les bouses de vaches qui sentent très fort. Et cette nature autour qui avait tendance aussi à être coupée, même quand j'étais gamine, même dans les campagnes, au profit de l'agriculture. Et il y avait encore un peu de préservation à Mandelieu, j'y vais beaucoup moins donc je sais pas ce qu'il en est, mais il y a l'immobilier qui prend de plus en plus de place. Mais oui, c'était quelque chose qui était important pour moi d'être baignée dans la nature le week-end, dans ma vie.
Je te pose la question à toi, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser plus collectivement, notamment nos auditeurs, nos auditrices. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez l'habitude que d'être... baigné dans la nature, et je me tourne aussi vers les autres personnes qui sont autour de cette table. Jeanne, Thibaut, vous, ce rapport à la nature, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous écoutez Audrey ? Est-ce que vous aussi, vous avez grandi dedans et ça vous manque, ou est-ce que vous avez toujours été dans un milieu très urbain et finalement vous faites avec ?
Je vais me lancer, moi ça me fait penser, j'ai toujours été en ville, j'ai habité à côté de Lyon, en Lorraine, là je reviens de Montréal, donc... C'est une ville qui est extrêmement... beaucoup d'architecture, beaucoup de béton partout. Mais contrairement à plein de villes en France, il y a des parcs immenses. Donc c'est vraiment une ville exceptionnelle là-dessus. Et moi, mon rapport à la nature, et ça fait un peu penser à ça, c'est que j'ai été beaucoup scout et on a un rapport à la nature extrêmement fort. On passe des journées entières, des semaines dans la nature. Et c'est vrai que plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'en fait, on n'a plus ce rapport. Et c'est assez intéressant. Et ça, en fait, on se rend compte que ça manque. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, je suis allé me balader dans une forêt en région parisienne. Et en fait, c'est incroyable. Et on n'a plus du tout ça, en fait, je trouve, en France. Enfin, en tout cas, là où j'habite, moi, je suis en région parisienne. Et effectivement, c'est des choses qu'on n'a plus. Et je suis d'accord que c'est assez important...
Merci Thibaut pour ce partage. Jeanne, qu'est-ce que ça t'évoque de ton côté ?
Je rejoins assez ce qui a été dit. Moi, j'ai grandi dans une espèce de banlieue un peu périurbaine où il y avait des petits endroits de nature, mais c'était une nature très domestiquée, très rangée dans des petits parcs. Tout bien propre. Donc à la fois, c'est pas complètement là où j'ai grandi et en même temps, c'est complètement une aspiration. Par contre, moi, je me sens assez déconnectée quand je suis en ville. De la nature, parfois j'oublie carrément qu'elle existe, j'ai l'impression. Et donc pendant super longtemps, je peux ne pas souffrir du manque de nature. Et puis d'un coup, je vais me retrouver dans la nature. Et là, c'est pareil, je suis déconnectée de la ville. Et en fait, j'oublie que ça existe, la ville. Donc je pense qu'il y a quand même une aspiration à la quitter à un moment. Mais en tout cas, j'en veux plus. Mélangeons.
Merci pour ces partages, et en fait je trouve que ça permet de commencer l'émission par un rapport sensible et un rapport personnel aussi qu'on peut avoir avec la nature en ville. Peut-être que je peux donner mon propre regard. Moi, je suis arrivé à Marseille il y a 4 ans et je me souviens, mes parents habitent juste à côté d'une forêt, que la première chose qui m'a marqué ici, c'est il n'y a pas d'arbre. Et pourtant, avec un peu de recul, en fait c'est aussi une ville qui n'a que 43% de la totalité de sa superficie qui est construite. Le reste, on va avoir soit des friches, soit des espaces naturels, mais il faut aller un peu dans les périphéries de la ville pour les retrouver. Donc ça, c'est, disons que c'est ce rapport paradoxal où, avec le temps, finalement, j'ai trouvé que c'est une ville qui apportait plus de nature que d'autres endroits. Mais quand on habite en centre-ville, et notamment à Nouailles, ce qui est mon cas, on sent l'absence de nature, notamment l'été, quand il fait extrêmement chaud. On en parlera plus tard avec le rôle d'îlot de fraîcheur que ça peut avoir. Mais je trouve qu'il y a ce rapport paradoxal. Et sur le côté sensible, moi, il y a quelque chose qui me touche plus que tout, c'est les oiseaux le matin. Avec un ami de Thibaut, on est parti marcher sur des chemins de grande randonnée au printemps, et il n'y a rien de plus incroyable, je trouve, que de se lever extrêmement tôt et d'assister au chant des oiseaux le matin. Et pour qu'il y ait des oiseaux, il faut qu'il y ait des endroits où ils puissent faire la nidation. Pour qu'il y ait des endroits où il y ait des nidations, il faut souvent des arbres. Et bon, après, le projet de la forêt des possibles nous y invite aussi. Donc j'ai des rapports, on va dire, assez... qui ont toujours été assez intimes avec l'idée des arbres. Mais voilà, donc c'était ce premier tour plus intime. Et ce que je te propose, puisque le slogan de la forêt des possibles, c'est de passer du moi au nous et du nous au tout, c'est que maintenant qu'on a fait ce premier petit tour de table, on va passer sur la partie nous, c'est-à-dire la partie projet. Et donc, après que tu nous aies présenté ton cheminement et tes questions, eh bien, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet et de nous dire tout simplement, peut-être, ce qu'est Forever.
Alors déjà, je vais parler d'un petit complément, parce que tu parlais des oiseaux. Alors moi, j'adore ça aussi. Mais j'aime bien aussi les petits grillons le soir. Je trouve ça trop chou. Et pour enchaîner sur le projet de Forever, ou Faut rêver, en gros, ça s'écrit pareil, mais on peut s'approprier le mot. Oui, il y a beaucoup de recherche et développement sur ce mot. Alors ça s'est développé avec une asso dans laquelle je suis depuis maintenant 4 ans, qui s'appelle la Jeune Chambre Économique. Donc c'est une asso en fait de jeunes citoyens qui agissent partout dans le monde. Donc il y a cette asso, elle existe dans toutes les grandes villes du monde. Et du coup, on fait des actions de cœur, tous bénévoles, pour en gros favoriser la paix. Donc ce qui est super, c'est qu'il y en a qui font des choses sur l'aide au retour à l'emploi pour les jeunes, d'autres pour le mobilier urbain, d'autres pour les maladies. Moi, j'ai choisi de faire un projet sur le développement durable, parce que c'est ça qui me touchait. Je me suis dit, je vais utiliser l'asso. Comme incubateur, elle est là un peu pour ça, pour agir dans ma ville, au niveau du développement durable. Il se trouve que j'étais pas la seule, il y a Gwendoline Diaz qui a pas pu venir ce soir, mais qui dirige cette commission qu'on a nommée Forêt Urbaine, Forever, Forêt Urbaine Marseille. Et donc, on est deux à porter ça avec plein d'autres bénévoles qui... de l'asso ou d'autres bénévoles qui veulent nous rejoindre, même hors asso. On n'est pas limité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était il y a maintenant, c'était en 2021 qu'on a eu cette idée, en août 2021 plus précisément, avec Gwendoline. On fait « Ouais, vas-y, on fait ça et tout ». Et entre-temps, on est en 2024, c'est ouf, ça passe trop vite. Et comment ça s'est passé au début? Il y a eu toute une phase de réflexion, d'enquête, de recherche. Nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut, de constat aussi, de poser les choses. Il manque de la verdure, il manque les chants d'oiseaux, il manque la fraîcheur. Donc, on a fait plusieurs recherches sur qu'est-ce qui serait le plus efficace pour avoir de la verdure, de la fraîcheur, des chants d'oiseaux. Donc on a étudié toutes les possibilités, les solutions, et bref, après, et en plus on a même fait une enquête citoyenne, on a, dans un bar au Vieux-Port, on a ramené des citoyens, on a fait des grands tableaux, et on a travaillé tous ensemble sur l'intelligence collective pour arriver à cette conclusion que c'était une forêt urbaine nommée Miyawaki, qui serait la plus efficiente, la plus efficace dans notre recherche de fraîcheur et de verdure.
Alors ce nom-là, Miyawaki, est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que c'est juste le nom que vous avez décidé de lui donner? Qu'est-ce que ça implique?
Non, alors ça, c'est pas nous qui avons décidé, malgré que ce soit très joli. Mais c'est un nom d'un monsieur Miyawaki, qui est un japonais, qui a initié cette méthode il y a 50 ans. Donc en fait, c'est pas tout neuf, hein. Et ça fait 50 ans qu'elle tourne cette méthode dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses à respecter dans la méthode, donc je peux vous en citer quelques-unes, mais
avec plaisir.
On n'a pas assez de temps pour que je vous explique toute la méthode, parce que moi, ça fait 3 ans que je me forme à ça.
Donne-nous les grandes lignes de ce qu'est une forêt Miyawaki.
Donc dans les grandes lignes, c'est une petite forêt qui va pouvoir être plantée en ville. C'est un peu l'astuce de faire comme si c'était une grande forêt, mais dans la ville. Donc ça, on peut la planter entre 100 et 2000 mètres carrés dans le modèle. En dessous de 100 mètres carrés, c'est pas considéré comme étant le modèle Milwaukee. On plante de manière très dense. Donc on plante les arbres proches les uns à côté des autres. Ce n'est pas de la monoculture dans le sens que ce n'est pas une seule espèce d'arbre qui va être plantée, mais une vingtaine voire une trentaine selon les projets. Et il y a différentes strates, donc il y a les arbres, les arbustes et les buissons. Et du coup, il y a toutes ces plantes à prendre en compte avec différents niveaux. Et la petite spécificité aussi, et ce qui fait que c'est possible de transporter cette méthode partout, c'est que on utilise les espèces natives. C'est-à-dire qu'on fait une étude terrain. Alors pour là, moi, je ne suis pas du tout ni biologiste, ni naturaliste, etc. Moi, c'est la gestion de projet. Donc, je me suis entourée d'un partenaire expert qu'on a recherché avec l'association, qui s'appelle Cœur et Canopée. C'est une société et qui plante avec cette méthode-là. Voilà. Donc, lui, il sait. Donc, c'est lui qui m'a appris les prémices de la méthode Milwaukee, et c'est lui qui a l'expertise qui fait qu'il peut planter n'importe où dans le monde en utilisant cette méthode, en allant chercher avec une enquête sur place des espèces natives de forêts les plus préservées du coin.
Et alors, moi je comprends bien l'intérêt d'avoir différentes espèces et qu'ils fassent pas la même taille, comme ça permet une protection d'ensemble de l'écosystème, et c'est d'ailleurs aussi autour de cette allégorie qu'on a construit la forêt des possibles qui veut montrer à l'échelle des organisations humaines que les structures et les dynamiques collectives d'un territoire peuvent fonctionner de la même façon et s'inspirer du fonctionnement des forêts pour apporter plus de résilience. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que les arbres particulièrement soient très proches les uns des autres? Parce que là, c'est ce que tu viens de nous expliquer.
En fait, c'est pas qu'il faut... Ouais, en fait, oui. C'est pas qu'il faudrait, densité, c'est que ça... le fait qu'ils soient proches, ça permet de multiplier la densité. Et ouais, en fait, après, il y a sûrement d'autres critères que je n'ai pas encore comme information. Mais oui, c'est pour recréer cette idée de forêt. Et surtout, quand on plante au début, on sait pas, il y a forcément, on estime à peu près 20% le taux de mortalité. Dans une plantation. On prévoit ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on plante aussi très densément.
Okay.
Et il y a un truc que j'ai pas dit aussi. Mais je le dirai peut-être tout à l'heure.
Si on reprend notre plan, tout ce qui va concerner les impacts, les intérêts de faire le projet, on en parlera sur l'apport social que ça aura. Et ouais. Donc ça sera après la respiration de forêt. Respiration musicale. On peut peut-être continuer à vraiment parler du projet en tant que tel. Là, tu nous as parlé de la jeune chambre, tu nous as parlé de toi, tu nous as parlé de Cœur et Canopée, mais il me semble que si on continue à faire le tour de la table, il y a d'autres acteurs qui sont porteurs du projet.
Ah bah oui, parce qu'on se demande, mais où va être cette forêt? Donc effectivement, c'est entouré de plusieurs partenaires, et un majeur, on peut dire, qui est la Friche Belle de Mai, dans laquelle on enregistre cette émission, d'ailleurs.
Depuis la forêt, en fait.
Ouais, c'est ça.
Les auditeurs ne savent pas ça.
Nous sommes dans la forêt.
Tu nous as fait faire un petit exercice lors du Sogoud Festival, où chacun devait faire un bruit de forêt. Donc moi, j'étais le vent. Je te laisse parler.
Exactement. Et donc, ça a du sens, en fait. Tout est relié. Et donc, on va la faire. En fait, ça aussi, ça a mis bien 2 ans pour remuer les terres, pour trouver un terrain. Et puis, d'un coup, on a eu plein d'opportunités. Enfin, plein. On a eu 4 ou 5 possibilités de terrain. Mais notre choix s'est porté sur la friche parce que, premièrement, le critère numéro 1, c'est qu'il y avait cet enjeu de débitumer. Et les autres projets, c'était déjà en terre pleine. Donc on s'est dit waouh, ça a vachement de sens d'enlever le bitume, parce que à la base c'est un terrain mort, quoi. Ah merci, tu nous mets les petits oiseaux. Donc quand il y a du bitume, c'est mort de facto. Donc on s'est dit chouette, il y a un impact fort. Deuxièmement, C'est en cœur de ville. Les autres projets qu'on nous proposait, c'était à Marseille, certes, mais c'était pas dans le quotidien majoritaire des gens qui passent par le centre-ville. Et troisièmement, et pas des moindres, c'est quand même à La Friche, qui est un lieu reconnu en local et aussi qui a même un nom au national en France, quoi. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être sympa pour la portée du projet, parce que nous, on a envie de planter pour planter une forêt, pour créer du vivant, mais aussi pour utiliser ce prétexte-là pour sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est que la biodiversité, qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce que c'est que les apports, qu'est-ce que tout ça nous apporte.
Jeanne.
Excuse-moi, mais du coup, tu disais qu'il fallait, pouvoir appliquer la méthode, il fallait débitumer, donc c'est forcément dans des espaces qui sont...
Ah non, justement, c'est pour ça qu'on a choisi La Friche, mais les autres possibilités de terrain étaient déjà en pleine terre.
Ok.
Donc la méthode, c'est pas bitumer, débitumer. La méthode, c'est la façon de planter, okay. La façon de préparer le terrain, l'analyse du terrain, d'enlever les choses, de remettre. Ouais, c'est.
Ok, pardon.
C'est le choix des arbres. C'est vraiment ça. Peu importe le terrain. Par contre, si, ce qui est important, c'est que c'est ça la valeur de ce projet-là aussi, c'est que. On doit s'en occuper, prendre soin de cette forêt, l'observer pendant 3 ans, l'arroser s'il y a besoin urgemment de l'arroser. Mais logiquement, après, au bout de 3 ans, on ne s'en occupe plus du tout. Et donc, il faut que ce soit en pleine terre, pas sur un toit, pas dans des bacs. Et c'est le fait qu'elle soit en pleine terre qui va rendre cette forêt pérenne, ad vitam aeternam.
Et moi, j'avais une petite question, parce que tu disais sensibiliser aussi sur les arbres. Donc, tu disais environ une trentaine d'arbres, enfin de typologies d'arbres différentes. Mais si c'est très resserré, j'imagine qu'on ne peut pas rentrer dans la forêt. Et comment on fait pour... peut-être que j'anticipe un peu déjà ce que tu allais nous dire, mais comment on fait pour sensibiliser à ce niveau-là? Parce qu'on ne peut pas forcément voir tous les arbres. J'imagine qu'il y en aura qui seront au milieu de la forêt, d'autres qui seront beaucoup plus en bordure. Et ce n'est pas une forêt accessible, en fait, pour les personnes, ou si, peut-être.
Ça, c'est une super question, merci. Oui, on a déjà fait en fait un atelier citoyen où on a expliqué le projet aux habitants et aux gens de La Friche, c'était le 19 juin, et c'est une question qui nous a été posée. Alors, dans la méthode Miyawaki, tout est possible à ce niveau-là, on peut faire un petit sentier ou pas. Après, nous, même si ça peut vous paraître grand, nous, on a 350 mètres carrés de terrain pour expérimenter ça. Pour un appart, c'est super grand, mais pour une forêt, c'est pas énorme. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 2000 m² dans ce genre de projet. Donc, en gros, l'avantage de ce genre de forêt, c'est qu'elle va faire beaucoup de fraîcheur. Ça va faire baisser la température. Et plus on la scinde, et ben moins elle sera efficace à tout niveau. Pour le refuge des animaux, pour les îlots de fraîcheur, etc. Donc là, on n'est pas encore acté à 100% dessus, mais on a une idée quand même de creuser, parce qu'on a travaillé aussi avec les habitants, avec leurs souhaits, etc. Donc quand même de faire un petit passage qui fait qu'on peut quand même aller au cœur de la forêt en revenant par le même passage, mais pas de faire tout un chemin de part et d'autre, parce que ça coupe tout et ça enlève des arbres et ça enlève la méthode, quoi.
Mais pour faire cette forêt, tout à l'heure, tu nous parlais de la question de la débitumisation. Et quand on a préparé l'émission, tu nous disais que c'était un enjeu qui était sensible en ce moment. Je pense que c'est important qu'on puisse, pas parler de toute l'émission, mais quand même faire un petit point dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un appel, je pense qu'on peut faire pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que tu vas nous présenter, tu vas le faire mieux que moi, mais il reste des besoins financiers pour pouvoir débitumer. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est aussi de montrer la difficulté que ça peut être que de chercher des financements pour clôturer le projet. Et dans les émissions de La Forêt des Possibles, notre enjeu, c'est d'inviter les auditeurs et les auditrices à se dire « Vous aussi, vous posez ces questions-là. Vous aussi, vous pouvez faire ces projets-là. Et vous aussi, vous allez pouvoir transformer la société à votre échelle. » Mais ce n'est pas de dire que tout est facile et que le monde est fait de bini-oui-oui et qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, parce qu'il peut y avoir des difficultés sur la route, et donc aussi d'avoir conscience que ça... Voilà, de ce qu'on va éprouver sur ce chemin-là. Donc j'aimerais peut-être que tu nous présentes un peu quels sont les enjeux du moment, et si tu as un appel à faire, c'est le moment.
Oh, merci. Auditeurs, auditrices, cet appel est pour vous. Oui, effectivement, Il y a l'enjeu d'enlever le bitume, puisque si on n'enlève pas le bitume, on ne peut pas mettre les arbres. Et du coup, ce n'est pas gratuit. on aimerait soit trouver une entreprise de terrassement. Donc, ça fait quelques mois que je me spécialise maintenant en terrassement, en vocabulaire de terrassement. Donc, on cherche une entreprise qui puisse enlever le bitume. Et soit qu'il soit un mécénat de compétences qui puisse nous offrir ça et le faire rentrer dans sa politique, on appelle ça RSE, qui œuvre pour le développement durable. S'ils ont conscience de l'importance et de l'impact que c'est, et aussi de comment on peut marcher ensemble et comment on peut aussi fonctionner main dans la main, on peut partir avec une entreprise qui serait prête à nous faire du mécénat de compétences directement. Ou alors, on cherche tout simplement des financements pour nous aider à payer l'entreprise de terrassement si elle ne peut pas nous faire du mécénat de compétences. Et ça, c'est vrai que moi, je fais beaucoup d'interventions le soir comme là, dans le bénévolat, à des émissions, des conférences, etc. Et c'est vrai que c'est souvent des questions qui reviennent. Il y a des gens qui disent... l'autre fois, il y avait quelqu'un qui dit « Oui, moi, je suis prêt à... J'aimerais bien acheter un parking et j'aimerais bien planter. » Je suis prêt à acheter un parking à planter. Par contre, je peux pas financer des victimisations, les plantes, tout le tralala, quoi. Et donc, ils questionnent à l'Assemblée, qui étaient des gens experts dans le domaine. Quelles sont les aides? Est-ce qu'il y a une aide, un package tout fait? Apparemment, les personnes, les invités ont répondu non, pas à leur connaissance. Alors que c'est un super projet citoyen, ça, ce qu'ils voulaient faire aussi.
Oui, il y a quelque chose d'assez incroyable quand tu présentais en disant que tu as réussi à avoir des banques, tu as réussi à avoir des fondations, tu as réussi à avoir des acteurs, des promesses potentiellement d'acteurs publics. Mais il y a plusieurs questions. Un, c'est qu'en fait, chacun prend un bout, mais la partie pas sexy, à savoir on débitume, personne ne la prend, mais si tu débitumes pas, t'as pas tout le reste. Donc ça, je trouve ça hallucinant. C'est très hors sol comme réflexion. Hein.
Complètement, ouais.
Et surtout, c'est le fait de vouloir faire rentrer les trucs dans des cases. Et puis après, ça s'inscrit dans le programme de la friche, qui elle-même est financée par la ville. Et donc le but n'est pas de dire que la friche... la friche propose le lieu, quoi. Mais ensuite, derrière, c'est comment est-ce qu'on va flécher les financements auprès de la ville, auprès de la région, qu'est-ce qu'on décide de flécher? Est-ce que c'est la totalité du site ou est-ce que c'est par projet sur des bouts de site, sachant que visiblement, ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a des enveloppes qu'on ne peut pas dépasser.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la friche, elle est sur des... Et c'est pour ça que ça a bien collé aussi entre nous. C'est qu'elle est sur des objectifs de renouvellement complet de son fonctionnement par rapport aux enjeux de climatique et de développement durable et de viabilité tout simplement du lieu. Dans 10 ans, ce ne sera pas viable en l'état s'ils font rien, quoi. Donc ils ont compris le problème et ils le prennent à bras le corps. Mais du coup, ils ont déjà mis en place des démarches pour faire des projets complets, comme installer des panneaux solaires, comme végétaliser l'entièreté de la friche. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils sont sur le sujet. Donc moi j'arrive avec mon asso en ayant trouvé des financements par-ci par-là dans un projet où eux ils ont déjà contacté des organismes publics notamment et même privés pour la totalité de leur projet et donc c'est un peu touchy en plus de demander la forêt sachant qu'à la base c'était pas ils l'avaient pas prévu à la base, donc tout est en constant mouvement et en réorganisation. Et bien sûr, ils sont hyper motivés par ce projet-là, qui est un projet citoyen et qui est un projet où travailler en amont. Donc nous, on arrive avec un dossier, clé en main, bim, on y va. Mais il reste des sous à trouver et c'est là que le bas blesse.
C'est là que le bas blesse. On va pas en parler toute la soirée, mais c'est important quand même de montrer que les structures de modèle économique actuel ne sont pas toujours très adaptées pour financer finalement des projets qui sont d'intérêt général pur. Ça nécessite de revoir nos modèles d'organisation, nos modèles de financement, la façon dont on finance les projets et puis aussi la hiérarchisation. Et ça sera le passage du moi au nous, c'est ce qu'on a fait, mais ensuite du nous vers le tout, c'est-à-dire comment est-ce que ce projet-là, en fait, à son échelle, peut participer à transformer la société. Et ce que je te propose, Audrey, c'est de nous donner un petit moment de respiration dans cette forêt-là. Et donc que tu nous dises quelle est la musique que tu as décidé de nous faire écouter. Tu m'as dit par message que c'était ta musique préférée.
Moi, j'ai plein de musiques préférées parce qu'à mes heures perdues, je fais de la musique aussi. Mais c'est surtout une de mes artistes préférées qui est Ima Sumac, avec une tessiture vocale un peu incroyable. Et c'est surtout moi ce qui m'a touchée avant tout, c'est son... Donc, elle est originaire notamment du Pérou. Mais elle a vécu beaucoup aux États-Unis. Enfin, c'est un personnage incroyable. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais elle s'est beaucoup inspirée des chants de la nature, des chants des oiseaux. Et elle n'a jamais fait de cours de chant, tout ça. Et elle sort des trucs incroyables.
Et ben, on se retrouve juste après dans l'émission de La Forêt des Possibles, à la Friche de la Belle de Mai, qui donne la parole à la micro-forêt de la Friche de la Belle de Mai, avec Audrey de Vedeux, juste après ça. Vous êtes de retour sur Radio Galère, au 88.4, dans l'émission de La Forêt des Possibles, qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et sociale de Marseille et de sa région. Et ce soir, nous sommes toujours en direct avec Audrey Devedeux, qui nous présente le projet de micro-forêt qui se trouvera, je parle au futur, à la Friche de la Belle de Mai. Et donc, tu nous as présenté quel était ton parcours, tu nous as présenté le projet, et puis maintenant, la question est de savoir comment est-ce que ce projet, à son échelle, participe à transformer la société. parce que nous, notre conviction, c'est que personne n'est capable de changer les choses tout seul, mais c'est qu'en faisant alliance et en s'unissant les uns les autres, qu'on arrive à faire des grandes transformations, des grandes forêts au sens propre comme au sens figuré. Et cette fois, on va en parler au sens propre et on va commencer par la façon dont cette forêt a un impact écologique sur le territoire. Et donc, ce que je te propose, peut-être dans un premier temps, c'est de nous dire rapidement ce à quoi ressemblerait Marseille en 2050 si jamais on n'avait pas des projets comme ça.
Alors, je vais peut-être plutôt en parler d'un point de vue sensible, comme on parlait tout à l'heure de ça, plutôt que d'un point de vue avec les yeux. Mais d'un point de vue sensible, ben, ça serait, disons, un puits de chaleur sans fond. Il y a des pronostics qui vont... là, j'étais à une conférence à la Friche, d'ailleurs. J'avais l'honneur d'intervenir dans la conférence sur l'eau. Et donc, il y avait des intervenants de la région, de la métropole, de la ville, qui disaient qu'on pouvait aller jusqu'à un sol qui va jusqu'à bouillir, quoi, à 70-80 degrés. Et du coup, c'est vite invivable, en fait. Donc, on peut être sur 70-80 degrés. Moi, je ne pensais pas que dans le sol, ça pouvait être à ce point, quoi. Chaleur au sol.
Il y a des études sur le centre-ville de Marseille qui postulent qu'on pourrait avoir jusqu'à 90 degrés en ressenti à 14 heures à Noailles en 2050.
Wow. Ah ouais.
Et ouais. Ouais, non, c'est... Donc, puisque c'est ça la trajectoire...
Voilà, tout le besoin. Bon, déjà là, on le constate, on a clairement chaud, l'été et autres, mais ça va s'empirer. Donc, et puis, il y a aussi, parlons-en, hein, la conférence était sur l'eau aussi, les crues, c'est complètement lié aussi aux les crues au végétal, le fait qu'il n'y a plus de retenue d'eau, c'est du béton, alors que c'est le rôle aussi des forêts de retenir l'eau dans le sol, de la transformer par l'évapotranspiration. Enfin, moi, je trouve ça complètement incroyable. Les arbres, c'est la vie, quoi. Ils transpirent, ils émettent donc de la buée, de la vapeur qui part et qui fait le cycle de l'eau, qui va faire de la pluie, qui va les nourrir, qui va nous faire boire de l'eau sans qui on ne peut pas vivre, qui va aller dans le sol, qui va nourrir tout un écosystème de champignons qui eux-mêmes vont nourrir les arbres, qui vont guérir nos maladies. C'est un truc de malade, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est ça la vraie magie, en fait. On ne s'en rend pas compte parce qu'on... Pour nous, c'est normal.
Sur la forêt des possibles, on aime bien utiliser l'allégorie, t'en fais pas.
Bah oui, du coup, oui, j'oublie vite, t'es dedans.
Mais donc oui, et donc effectivement, en fait, par rapport à la question des sécheresses et la question de la chaleur, il y a la possibilité, via la réintroduction de forêts en ville, de pouvoir créer des îlots de fraîcheur en débitumant, parce que le bitume maintient la chaleur. Déjà, il est noir, où il est de couleur foncée, donc il capte la lumière, et ensuite il va garder cette chaleur-là, et ça va s'entretenir, et ça va la restituer principalement dans les moments où il pourrait faire plus frais, et notamment la nuit, et notamment quand ça dure, et c'est ça qui crée des canicules, c'est quand la température ne redescend pas la nuit, alors qu'un sol vivant est un sol qui, pour sa part, ne va pas garder une chaleur aussi importante, pour ce qui concerne le sol, avec effectivement plein de petits végétaux qui vont pouvoir venir... je ne sais pas si vous avez déjà mis la main dans des forêts, dans ce qu'on appelle la sylviculture, c'est-à-dire sous les feuilles. Souvent, il fait relativement frais et le sol est resté humide parce que les feuilles ont maintenu cette humidité-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui pratiquement, au sens pratique, permet de garder plus de fraîcheur. Et puis ensuite, il y a toute la canopée qui, elle aussi, va participer à faire en sorte que ce sol, lui, ne soit pas autant exposé à ces réverbérations du soleil.
Moi, je te veux en bénévole à nos côtés, là. Hein. T'as tout compris, là.
J'ai suivi des marches avec le bureau des guides qu'on a aussi reçu.
Ils sont trop bien, eux. Ouais.
Qu'on a aussi reçu à ce micro. Et j'en avais retenu ça parce que ça m'avait beaucoup marqué. Jeanne, je vois que tu veux dire quelque chose.
Audrey, tu sais s'il y a des projets similaires qui ont été réalisés à Marseille, de forêts urbaines? Et aussi, question peut-être un petit peu triste, mais est-ce que combien de forêts urbaines il faudrait mettre en place pour faire en sorte de ne pas avoir les 90 degrés ressentis à Noailles d'ici 2050, si jamais
Alors, selon mes calculs très mathématiques sur un schéma trigonométrique.
Une fourchette.
Oui, alors, donc ta première question, c'était...
Est-ce qu'il y a d'autres projets?
Voilà. J'adore vos questions, vous êtes à fond. Oui, alors, dans le... En fait, il y en a eu plusieurs de faits dans la région PACA. Donc, c'est celle qui nous concerne. À Marseille, il y a eu des petits tests... mais pas avec l'appellation Miyawaki, parce que c'était moins de 100 mètres carrés. Mais il y a des petits îlots de fraîcheur, on va dire, qui ont été créés par plusieurs mairies de Marseille, notamment celle du 6-8, qu'on a fait pas mal, où je suis aussi allée voir ce qui s'est passé à Marseille. Mais on serait un peu pilote, projet pilote pour Marseille, en tout cas. Ça serait la première marseillaise. Voilà, et combien il en faudrait? Alors ça faudrait, c'est une très bonne question que je peux poser à mon partenaire Cœur et Canopée pour qu'il me dise, moi à vue d'œil je dirais qu'il en faudrait bien 3-4 par arrondissement quoi, de cette surface, 350 mètres carrés. En fait plus on multiplie les îlots de fraîcheur, plus aussi ça c'est efficient quoi.
Il y avait un plan de la ville, il me semble, qui passait au moins jusqu'à 2 ans, de 300 000 arbres plantés, notamment dans les cours d'école. Peut-être que j'ai deux questions, si jamais tu as les réponses. Est-ce que tu sais ce qu'il en est de ce projet-là? Première question. Et la deuxième, quelle est la différence entre le fait de planter les arbres groupés dans une forêt et le fait de planter des arbres de façon isolée, de façon un peu aléatoire? Oui, en mode parc, ou juste un arbre par-ci, un arbre par-là. On le recouvre de béton, comme on peut le retrouver dans les grandes artères. Et on a un arbre, mais finalement, on n'a peut-être pas tout l'écosystème que ça permet de faire s'ils étaient groupés.
Voilà. Alors, de toute façon, dès qu'on met du végétal, ça fait le taf. Il y a déjà un petit truc qui se crée. Donc, si on plante un arbre, plantez des arbres partout. N'hésitez pas à faire de l'essaimage citoyen. C'est toujours bon à prendre. Après, ce n'est pas du tout le même rapport entre un arbre sur le bord d'une route, un parc comme Borély, et encore, niveau du dessus, une forêt. Donc, plus c'est dense, plus c'est sauvage, plus il y aura de biodiversité, parce que ce ne sera pas touché, parce que ce ne sera pas tondu, parce que ce sera ensemble. Voilà. Donc, c'est une vraie petite société, les arbres. Ils créent leur vrai écosystème entre eux. Donc plus c'est dense, sauvage, plus c'est efficace, à tout rapport, à tout niveau.
Moi j'ai retenu que les forêts permettent de créer des sociétés, c'est quelque chose qui encore une fois fait écho. Et tu parlais aussi de biodiversité, donc il y a un lien sur la capacité à pouvoir peut-être ramener plus d'oiseaux en ville, peut-être aussi plus d'insectes. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des projets à Paris, et où finalement il n'y avait pas beaucoup plus d'insectes après. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Enfin, toi, tu ne l'as pas encore planté, la forêt, donc on ne le sait pas, mais est-ce qu'on sait jusqu'à quel point ça va pouvoir réintroduire de la biodiversité? Parce que malgré tout, ça reste sur 350 mètres carrés, et donc même si c'est dense au milieu, ça va rester très urbain autour, et ça ne va pas tout changer.
Alors ça aussi, c'est un des avantages d'être à la friche, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le coup en termes scientifiques. Donc déjà au niveau des relevés des températures, avant même que je propose le projet, ils prenaient déjà des analyses de la température en été, en hiver, hein, et on va pouvoir comparer avec la forêt qui va pousser la différence de température qui va être amenée avec le temps. Donc ça c'est pour les températures et pour la biodiversité. Pareil, il y a déjà les relevés sont assez simples au niveau du bitume, mais il y a déjà des relevés parce que la friche n'a pas attendu mon projet que je tonne à la porte pour faire des choses. Donc notamment avec le collectif La Friche Verte avec qui on est partenaire et qui feront déjà des trucs super en cultivant à côté. Il y a déjà eu des expérimentations aussi avec des petits îlots de fraîcheur de quelques vingtaines, trentaines de mètres carrés à côté du restaurant Les Grandes Tables. Donc voilà, ils ont déjà expérimenté des choses. Il y a déjà des relevés qui sont faits. Il se passe déjà des choses au niveau de la biodiversité. Et nous, j'espère qu'il y aura le plus d'insectes possible. Mais là, à terme, je ne peux pas dire... Chaque forêt créer comme ça sa spécificité. Mais j'espère, oui, qu'il y aura un max d'insectes et d'oiseaux qui vont venir se poser, notamment lors des migrations, parce qu'à part les bâtiments, ils n'ont pas grand-chose, ou quelques parcs. Donc j'espère. Mais la biodiversité, c'est très complexe, parce que là, on pense tout de suite à des choses, voilà, les insectes, les oiseaux, mais c'est aussi les micro-organismes, c'est aussi les petits champignons qu'on ne voit pas, en fait, et qui vont se faire communiquer les arbres entre eux, qui vont développer des tout petites choses, et ça prend énormément de temps, en fait. Donc il y a des choses, on croira qu'il n'y a pas, mais en fait, il y a. Mais avec des relevés scientifiques, on pourra observer justement ça. Donc ça je pense que ça, c'est après, c'est la friche qui pourra s'éclater aussi avec ça. J'espère que je pourrais peut-être être associée à ça aussi, qui sait, mais sur plusieurs années, de s'éclater à voir ce qui se passe au microscope, ou en prenant des relevés de sons, ou des relevés d'oiseaux.
C'est là où tu fais un pont parfait avec un autre grand pan de l'avantage que ça peut avoir. C'est jusque-là, on a parlé des impacts écologiques, même si le mot écologique, c'est ce qui nous relie, donc ça touche l'humain malgré tout. Mais on va dire plus sur le plan de la préservation de la biodiversité, sur la capacité de la restauration des milieux naturels. Mais il y a aussi tout ce qui va concerner l'impact social. Et donc là, tu nous as pas mal parlé de la friche avec les scientifiques et les chercheurs qui étaient ici. Mais la friche, c'est un tiers-lieu culturel qui se trouve dans dans un quartier populaire, avec une grande diversité d'usages, une grande diversité de personnes qui viennent pour des raisons très différentes. Et il me semble que le projet a aussi vocation à venir croiser ces publics-là et faire en sorte qu'il puisse y avoir de la mobilisation des résidents et de la sensibilisation de publics qui peuvent être plus éloignés que les chercheurs qui arrivent avec leur microscope.
Exactement. Tu as tout compris.
Voilà, fin de l'émission.
Point. Non, oui, alors c'est vrai qu'on a commencé pas mal à faire de la médiation, on va dire, de la sensibilisation. Quand on a eu cette idée de projet, on dit « Ouais, on va voir ce qu'en pensent les citoyens, est-ce que c'est les habitants ?» Donc c'est là qu'on a fait cette soirée le 19 juin. Après, on a aussi fait un petit événement en juillet pour récolter les sensations, les émotions, les envies. J'avoue que depuis le mois d'été, depuis fin juillet, on a un peu moins insisté là-dessus parce qu'il y avait des enjeux juste de faisabilité du projet dans le fait d'avoir les sous. Donc là, vraiment, pour l'instant, on concentre toutes nos énergies pour trouver les sous. Mais dès qu'on a les financements, voilà, on relancera des... Donc restez attentifs, sûrement en janvier, on relancera des soirées. Parce que oui, il y a des enjeux. Moi, je connais déjà, du coup, des résidents ici, comme les radios, ou il y a des assos aussi qui bossent là. Il y a le Labo des Désirs, notamment, on va sûrement collaborer ensemble pour faire un thème d'une semaine sur le thème de la forêt au début février. Voilà, rien n'est joué, hein, mais on est en train de parler de ça, de comment on peut faire un Labo des Désirs spécial forêt V, quoi. On est en train de voir aussi avec des associations et d'habitants de quartier comment on peut faire planter les habitants du quartier avec nous. Les écoles, rappelons que dans la friche, il y a aussi une crèche. Et puis, j'espère que ça dépassera même le quartier, donc il y a le troisième, mais que ça sera même tout Marseille. Mais en tout cas, le troisième, c'est un quartier super intéressant, parce qu'il y a vraiment, et surtout dans ce lieu, la friche, qui est identifiée comme un lieu d'expérimentation, donc entre des artistes, des étudiants, des personnes âgées, des habitants, des gens qui sont en difficulté sociale, des gens qui ne le sont pas. Il y a vraiment, vraiment plein de profils. Et moi, j'adore rien que penser à l'idée de faire collaborer tout ce monde-là et de voir tous ces gens-là plantés ensemble. Ça me met trop d'émotion. Rien que pour ça, il faut que ça se fasse. Parce que pour moi, le projet, c'était bien sûr planté, mais les 50%, c'est ça, c'est vivre ça ensemble. Avoir les mains dans la terre, être à côté d'une personne âgée, être à côté de quelqu'un de 30 ans, être à côté de quelqu'un de 15 ans. Et œuvrer tous ensemble, quoi.
C'est beau. Et justement, c'est l'occasion aussi peut-être de dire que tu fais pas ça toute seule. Tu voulais parler des partenaires pendant la pause musicale. C'est le moment de caler les gens qui rendent ça possible, peut-être.
Ouais, je voulais faire un petit clin d'œil. Alors, ils sont encore pas tous validés. Et puis, je vais pas les citer tous parce qu'il y en a vraiment pas mal qui sont avec nous. Mais je vais peut-être déjà, le nerf de la guerre, c'est les partenaires aussi financiers. Donc, on vient d'avoir des bonnes nouvelles, là, cette semaine, avec Entrepreneurs pour la Planète, qui est une association excellentissime. Je vous invite à aller voir ça, qui va nous donner une petite aide. Mais toute aide est bienvenue. Et là, on vient de aussi, alors c'est dans les starting blocks, rien n'est validé, mais on espère, on va être en commission la semaine prochaine avec la fondation Crédit Agricole Alpes-Provence, qui j'espère donnera un beau résultat. On a envoyé aussi notre dossier à des fondations telles que la fondation Yves Rocher, Terre de Femmes. Rien n'est joué non plus, on est en concurrence avec plein de super autres projets, mais j'espère que ça sera retenu. Et puis, merci à GERES. C'est un ONG qui, carrément, eux, ils nous ont contactés directement en disant « Ouais, super ce que vous faites, on veut parler de vous, on va faire un colloque là et on veut parler de vous. » Alors nous, on n'était pas dispo parce qu'il y avait le So Good Festival au même moment, machin. Mais même sans nous, ils ont parlé de notre projet, ils ont fait l'appel au fond. ça y est. Pour moi, c'est déjà une victoire quand on commence à en parler comme ça, quand il y a des gens qui veulent s'associer au projet. Voilà, c'est trop bien.
Et ben, on espère aussi que d'autres personnes qui ont les moyens de pouvoir rendre un projet comme ça seront à l'écoute de cette émission, en direct ou en podcast. Oui, tu voulais dire quelque chose ?
Si je peux ajouter un truc, souvent on me pose la question aussi. Bah alors, peut-être que tu allais l'amener.
Vas-y.
Ou j'avais l'impression que c'était sur la fin.
Bah, là, il nous reste 3 minutes.
Ok, bah alors je vais l'amener moi-même sur la question de ouais, mais en fait, c'est mieux de. Il n'y a qu'à pas enlever les arbres. Et comme ça, il n'y aura pas à en remettre. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de personnes qui œuvrent à la préservation de la biodiversité, des forêts, etc. Le fait est que bah là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, à Marseille, il n'y a plus d'arbres. Quand il n'y a plus, ben, on ne peut plus préserver. Donc il faut restaurer. Et on nous dit, oui, mais la nature, elle fait très bien les choses elle-même. Oui, la nature, elle est parfaite. On pourrait la laisser faire. Sauf que ben, pour faire ce qu'on va faire là, une microforêt, ben, ça met 300 ans, en fait. Sauf que là, il y a une petite urgence climatique. Et la méthode Miyawaki permet de faire, avec cette méthode, un truc que la nature ferait en 300 ans, ben, de lui donner un petit coup de pouce pour que ça se fasse en 3 ans.
Effectivement, la question que j'allais peut-être te poser, c'était de savoir, en termes de coûts-bénéfices, où est-ce que ça nous amenait ? Parce que il y a quelques années, j'avais été travailler dans une ferme dans le Pays Basque, dans un endroit bien reculé, et ils regardaient de façon un peu rigolarde les urbains qui font des fermes urbaines ou qui peuvent faire des forêts, mais là ils étaient plus sur les enjeux des fermes urbaines en disant en fait le temps de pouvoir tout débitumer, de mettre de la bonne terre, de faire avenir à tout ça, de dépolluer les sols, et surtout pour avoir une parcelle toute petite qui à l'arrivée n'est pas si productive, et ils n'y voyaient pas l'intérêt, eux qui étaient déjà dans un espace préservé. Et donc là peut se poser cette question là, mais tu y as répondu pour plein de raisons, parce que quand on regarde un spectre de façon plus large, il y a le fait de pouvoir créer du lien, il y a le fait de pouvoir avoir des îlots de fraîcheur, le fait de pouvoir éviter d'avoir des inondations, le fait aussi peut-être de pouvoir éviter... Le troisième arrondissement est un arrondissement, il faut le dire, qui ces dernières semaines a été marqué par des drames terribles, des crimes atroces, et notamment aussi parce qu'on est dans des endroits qui sont très denses, et donc quand on a aussi besoin à un moment de baisser la pression, quand on est dans un espace resserré, dense, où on n'a pas un endroit où s'échapper, ça peut faire péter des plombs, quoi. Donc, quand on regarde la totalité du spectre, ça, c'est raison d'être.
Il y a un aspect indéniable de bien-être. Et surtout, moi, j'aime beaucoup parler de la poésie de la vie. Il y a des choses, il y a l'utilité des choses. Mais il y a aussi la poésie qui est utile, mais qu'on croit que non. Donc ramener du beau, ramener du sensible, voilà, merci.
C'était ma dernière question. Il nous reste 2 minutes avant de conclure. Audrey, je vais t'inviter à fermer les yeux.
C'est l'expérience dont tu m'as parlé,
voilà, c'est la fameuse mystérieuse expérience. On fait un petit clin d'œil à Arthur Lanterre qui propose souvent ça dans les 2030 glorieuses, mais là on va aller un peu plus loin, on va se projeter en 2040 ou en 2050 même. J'aimerais que tu visualises la ville de Marseille qui a réussi. Et j'aimerais que, en fait, tu ressentes ce que c'est que d'avoir réussi, que d'avoir gagné le combat. Parce que c'est un combat, le combat pour rester vivant. J'aimerais que tu ressentes les sentiments que ça provoque, que tu fasses attention aux émotions, que tu fasses attention aux senteurs, aux goûts, aux odeurs, aux bruits, et que tu aies vraiment cette approche très sensible, et qu'ensuite, une fois que tu t'es vraiment imprégné de ça, que tu prennes un vélo et que tu te balades, et que tu ailles un peu là où tu as envie d'aller. Et progressivement, tu vas rouvrir les yeux. Et j'aimerais que tu nous projettes avec nous sur ce à quoi tu aspires. Parce que si jamais on a envie de le gagner, ce combat, et ben, il faut tracer un horizon. Il faut tracer un imaginaire. Et donc, les auditeurs et les auditrices sont sans doute curieux, curieuses de savoir où est-ce que tu veux qu'on aille.
Bah, je suis très sensible à ça, justement. Ça m'émeut beaucoup. Parce que je me projette vraiment dans ce paradis, quoi. Et ça me fait des super émotions. Et parce que je me dis que c'est vraiment possible. Et il faut vraiment que tout le monde puisse fermer les yeux là. Imaginez-vous le paradis sur Terre et dans quoi vous seriez bien. Et ben on est bien dans le sensible. Et la ville est super aussi. C'est d'ailleurs très résilient, une ville. Parce qu'on s'auto-chauffe. Y a plein de... On fait de la coloc. Donc, il y a l'utilité de la ville, mais il y a l'utilité de cette nature. Moi, je vois de la nature partout, en fait, quand je ferme mes yeux. Je vois de la nature sur les murs, je vois de la nature par terre. Je vois du sauvage, je vois des choses qui ne sont pas coupées. Je vois du beau, je vois des créations artistiques dans la nature, des gens souriants, des enfants qui jouent dehors, parce que c'est un vrai sujet aussi à Marseille. Il y a des archives où on les voit jouer dehors. C'est plus le cas, il n'y a plus d'enfants qui jouent dehors. Je vois des vélos, oui, des vélos à gogo. j'entends le vent, les oiseaux, je n'entends pas de moteur. Et j'entends des rires, des gens qui prennent des coups à boire, qui rigolent. On entend ça, la joie, on l'entend. On entend les animaux. Voilà, ça m'émeut trop, donc j'arrête là. Je vous laisse votre propre imaginaire.
Bah, merci beaucoup, Audrey. Et c'est un exercice qu'on va proposer avec Félix, qui est en studio dès vendredi pour le Climat Libé Tour à la Citadelle à 120 enfants de CM1, CM2 de la ville de Marseille, où on va les inviter à se projeter en 2050 et notamment à construire, enfin à faire pousser plus des villes-forêts. Donc merci pour cette expérience sensible qui m'a aussi beaucoup ému à t'écouter. Merci Félix en régie.
Avec plaisir, bonne soirée.
Merci Thibaut et Jeanne.
Merci Audrey, c'était super.
Merci Audrey.
Et bien évidemment, merci Audrey Deveudeux d'être venue nous présenter le projet de microforêt qui, on l'espère, poussera à Marseille dès le mois de janvier prochain, ici à la friche de la Belle de Mai. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, à 19h, avec Xavier Corval qui viendra nous présenter le projet de Écosphère sur la question du traitement des déchets. Très bonne soirée et à bientôt.